Alors, pour notre assemblée générale, je vais demander à Guillaume Montaret de Geneviève Desjean et Serge Blaninière de me rejoindre. J'excuse de Bénédicte Lannes, qui avait une bonne raison de ne pas être là. Déplacement prévu de longue date, qui est notre
Bonjour,
trésorière.
je ne peux malheureusement être parmi vous, je suis dans ma commune.
Auparavant, il y a le petit discours du président de l'AMF. Je devais le lancer, mais on va reprendre à zéro, ce sera plus simple.
Bonjour, je ne peux malheureusement être parmi vous, je suis dans ma commune en train de gérer notamment les intempéries, nous y sommes malheureusement habitués. Je tiens à vous souhaiter vraiment de très très bons travaux, un très beau troisième salon des maires et un très beau congrès des maires du Lot, une association dynamique dans ce beau département et je veux saluer son président Jean-Marc Vessousfort, je salue toute l'équipe, salue aussi Karine Alicot, la directrice dynamique. Vous travaillez dans l'esprit qui est celui qui nous rassemble, c'est-à-dire celui de l'association des maires de France dans un esprit transpartisan au service des maires que nous sommes des praticiens du quotidien, nous avons des engagements, nous avons des convictions, mais dans notre exercice de maire, nous travaillons évidemment pour l'intérêt général. Cette réunion, elle se fait dans un contexte très difficile pour plusieurs raisons, de toutes les difficultés que nous connaissons depuis des années de perte de pouvoir des élus et de perte de pouvoir des maires, notamment en matière d'urbanisme, et c'est un sujet majeur et qui doit être regardé les yeux dans les yeux, comme l'on dit, et puis bien sûr, à ce moment budgétaire particulièrement intense, la situation catastrophique des comptes publics dans laquelle se trouve notre pays, nous l'avions tous vu venir, nous avions alerté depuis des années, nous avions indiqué que la recentralisation financière, la suppression ou la nationalisation de la taxe d'habitation, le fait que la bureaucratie bloque l'action des élus locaux, comme des préfets d'ailleurs et des sous-préfets, avec cet éparpillement des services de l'État, nous amenait dans une situation absolument insoutenable. Et malheureusement, les mesures qui sont proposées dans ce projet de budget sont des mesures qui peuvent peut-être, sur le moment, l'instant, permettre de présenter un budget de l'État moins catastrophique que prévu, ou en tout cas qui permettrait de passer à Bruxelles, mais qui va amplifier les problèmes qui sont les nôtres, parce que l'effet en sera récessif. Le prélèvement de 2% sur les recettes des collectivités territoriales qui ont plus de 40 millions d'euros de dépenses va se faire au détriment des départements, des régions, des grandes agglomérations, des collectivités, et va se faire au détriment finalement, y compris de la ruralité, notamment parce que les départements jouent un rôle de solidarité. Le FCTVA, et c'est peut-être le plus grave, la ponction sur le FCTVA se fait à un moment du mandat où nous sommes en crédit de paiement, où nous concrétisons nos projets. Et donc, évidemment, nous allons combattre ardemment cette disposition sur le FCTVA, et sans même parler des autres mesures qui nous attendent, comme l'augmentation de 4 points des cotisations employeurs pour alimenter les retraites, c'est presque 2 milliards d'euros hein, de coûts pour nous. Donc toutes ces mesures-là, elles vont amplifier la perte d'autonomie financière et qui est une source du problème des comptes publics et elles vont finalement ne faire que transférer les difficultés financières. Juste donner quelques chiffres sans être trop long. Évidemment, il y a des collectivités mal gérées. Évidemment, il y a des effets pervers dans ce millefeuille. Nous avons été les premiers à alerter. C'est pas nous qui avons voulu le millefeuille. C'est pas nous. Ce sont les technocrates qui ont eu le culte des grands ensembles et qui croient que c'est toujours mieux quand c'est grand. Il n'empêche que, d'un point de vue macroéconomique, macro-budgétaire, le total des dépenses de toutes les collectivités territoriales françaises, ça représente 11% du PIB, la richesse produite. La moyenne européenne des dépenses des pouvoirs publics locaux, c'est 19%. Donc nous ne sommes pas le problème des comptes publics, d'autant plus que nous empruntons que pour de l'investissement. Nous respectons la règle d'or. Sur la dette, le total des dettes, des emprunts des régions, des départements, des intercommunalités et des communes représente entre 8 et 9% de la richesse produite. La moyenne européenne, elle est bien élevée et surtout, c'est 8%. C'est 8%, c'était les mêmes il y a 30 ans. Donc, évidemment, nous nous sentons mobilisés pour participer au redressement des comptes publics, sauf que nous disons que les mêmes recettes qui ont amené les comptes publics dans la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, ne permettront pas de les sortir et qu'il faut que l'on retrouve de la liberté de l'action, de la responsabilité locale et qu'on puisse relever les défis de notre époque, le défi écologique, le défi numérique, le défi économique et social, le défi démographique et j'en oublie. Donc pour cela, nous avons besoin d'associations associations départementales de maires fortes, comme c'est le cas dans le Lot. Nous avons besoin d'une AMF forte, comme nous essayons de la construire toujours plus chaque jour, pour faire entendre la voix de la performance publique, de la démocratie locale, de la liberté et de la responsabilité locale. Vive les maires du Lot et vive les maires de France, et à très bientôt au Congrès des maires, porte de Versailles, dont le thème sera les communes, heureusement. Heureusement pour nos écoles, heureusement pour la solidarité, heureusement pour l'écologie, heureusement pour l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap, heureusement pour l'innovation, heureusement pour l'action sociale, heureusement pour la culture, pour le sport, heureusement les communes. Vive les communes de France.
Voilà, merci à notre président David Lisnard, qui viendra un jour, j'en suis sûr, ici dans le Lot, on l'invite régulièrement. Donc je vais laisser la parole pour le rapport financier à Guillaume Ontared, qui est diplômé en expertise comptable chez ACOM, pour la présentation du rapport financier sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
On va s'asseoir. Allez-y, allez-y. Madame la préfète, messieurs les parlementaires, chers élus, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de remplacer Madame Lannes, la trésorière de l'association, afin de vous présenter le rapport financier de l'AMF 46. Cette présentation va se dérouler en trois temps. La lecture du compte d'exploitation et du bilan financier, la présentation de l'évolution des cotisations et la présentation du budget prévisionnel. Alors j'en conviens, ce n'est sûrement pas la partie la plus intéressante du congrès, mais accrochez-vous, ça ne dure pas longtemps. La première partie, le compte d'exploitation qui s'affiche, couvre la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. En comptabilité, pour analyser les flux, il est souvent fait une comparaison avec le réalisé de l'année précédente. Je n'évoquerai ici que les variations les plus significatives. Ce compte d'exploitation fait état d'un total de recettes de 246 845,23 €. Et se décompose en versement de l'AMF pour un montant de 13 624,24 €, en recettes du congrès départemental pour 33 050,50 €, en hausse de plus 13 000 € grâce à la renégociation de la convention avec le prestataire, en recettes du congrès national pour 5 426 €, en cotisation des communes qui s'élève cette année à 83 956 €, et celle des intercommunalités à 13 177 €. Les recettes liées aux réunions d'information se sont élevées à 305 €, et celle des formations aux élus à 37 910,02 €. La subvention du département reste inchangée et représente 40 000 €. Les recettes de communication et d'opération liées aux agendas s'élèvent respectivement à 4 000 et 13 250 €. Les produits divers représentent 758 et 6,47 €. Et enfin, les produits financiers liés au compte à terme ont rapporté 1 382 € cette année contre 506 € l'an passé. Le montant des dépenses, quant à lui, s'élève à 217 381,44 € et s'articule de la manière suivante. Cotisation AMF pour 30 180 €. Dépenses liées au congrès départemental pour 23 513,30 € et 6 504,19 € pour le congrès national. Les frais de charges de personnel s'élèvent à 105 437,36 €. A noter que les frais de mise à disposition du personnel par la mairie de Cahors ont diminué de 5 000 €, eu égard au passage de Madame Alico à temps partiel à compter du 1er janvier 2024. Les frais d'affranchissement s'élèvent à 100,58 €, ceux du téléphone à 991,78 €. Les dépenses de fourniture et matériel s'élèvent à 4 082,67 € et ont augmenté de 3 000 € par rapport à l'an passé pour financer un poste informatique. Les frais de documentation sont de 680,23 €, ceux liés aux réunions des élus de 585,40 €. Les dépenses pour la formation des élus représentent 16 000,72 €. Les frais de déplacement et réception ont diminué de 2 000 € et s'élèvent cette année à 5 898,46 €. Le poste de frais juridiques s'élève quant à lui à 7 099 euros et a diminué de 4 000 euros car il y a eu moins de sollicitations du cabinet d'avocats. On retrouve ensuite les frais de location immobilière pour 1 306,91 euros, d'assurance pour 764,76 euros, les frais comptables pour un montant de 1 635,56 euros. Les frais d'abonnement informatique représentent 4 788,51 euros. Les dépenses de communication, 399 euros. Et les dépenses liées aux opérations d'agenda, 7 345,24 euros. Enfin, les frais divers s'élèvent à 3,47 euros et les frais bancaires, 64,30 euros. Les recettes totales représentent alors 246 845,23 euros et sont en hausse de 20 000 euros sur l'année, comparé à l'année 2022-2023. Les dépenses, quant à elles, représentent donc 217 381,44 euros. Et sont en baisse de 11 000 euros. Le résultat de l'association cette année s'élève donc, pour l'exercice 2024, à un bénéfice de 29 463,79 euros. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer. Je vais donc passer au bilan financier.
Alors d'abord, je pense que Geneviève va se... va donner lecture du rapport de la commission de contrôle.
C'est vrai.
Ensuite, on reprendra, vous reprendrez la main sur le bilan financier.
Bien sûr.
Madame la préfète, chers collègues élus, mesdames, messieurs, voici le rapport de la commission de contrôle. Les membres de la commission de contrôle des comptes de l'Association des maires et élus du Lot se sont réunis à Cahors le jeudi 19 septembre 2024. La comptabilité a été mise à notre disposition. Merci. Et toutes les pièces demandées ont pu être fournies. Nous avons vérifié la réalité des soldes des comptes financiers. Les différences entre les montants inscrits au bilan et ceux figurant sur l'extrait de compte au 31 août 2024 sont parfaitement justifiées par un état de rapprochement que nous avons vérifié. Les recoupements ont été effectués dans l'enregistrement des dépenses à deux niveaux. Du grand livre à la pièce et de la pièce au grand livre et n'ont laissé apparaître aucune anomalie. La comptabilité est bien tenue, les comptes d'exploitation qui nous sont présentés sont conformes. En conséquence, nous sommes autorisés à vous conseiller d'approuver les comptes tels qu'ils sont présentés et à donner quitus au trésorier. Voilà, ce sont les contrôleurs des comptes. Monsieur Gérard Guédou, maire de Concorès, monsieur Didier Saint-Mexan, maire de la Dira et moi-même, Geneviève Desjean, maire d'Augeol. Merci.
Merci Geneviève. Donc, comme tu l'as annoncé, je soumets à votre approbation le compte d'exploitation 2023-2024. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Merci pour votre confiance. Et je redonne la parole à Guillaume Hontaret, ce coup-ci, pour le bilan financier.
Alors, pour le bilan financier, pas de diapo pour cette partie. Le bilan financier, donc, c'est une règle en comptabilité, actif égale passif, et donc l'association ne déroge pas à cette règle. Les résultats accumulés par l'association depuis son ouverture représentent 202 960,26 euros, résultat 2024 inclus. Ce sont les fonds propres de l'association, et ils se répartissent de la manière suivante. Compte courant, plus 7 963,32 euros. Compte sur livret CSL, 18 271,38 euros. Compte livret A, 76 500 euros. Compte DAT, 98 251,80 euros. Opération non débitée ou reçue par avance au 31 août 2024, moins 21 833,84 euros. Opération non encaissée ou versée par avance au 31 août 2024, plus 23 807,60 euros. On retrouve bien notre total de 202 960,26 euros. Les fonds propres de l'association sont donc solides, mais ne représentent pas tout à fait la norme qui est en général d'une année de charge d'exploitation.
À moi. Un mot sur ce qui vous a été présenté. D'abord un excédent, on l'a dit, qui était un petit peu en trompe-l'œil, hein, puisque... Karine a rejoint pour une partie de son temps le staff de mon staff de collaborateurs parlementaires. Et donc, évidemment, l'association en a profité. Ça a aussi forcément tendu l'association. Donc, je veux remercier Karine et puis Nathalie pour le travail qu'elles ont fait pour essayer de compenser. Et donc, ça nous oblige évidemment à évoluer pour l'année prochaine. D'autant plus que vous avez été nombreux à nous parler de l'aide juridique. Il y a une demande de plus en plus forte et que le bureau et le conseil d'administration ont décidé du recrutement d'une juriste qu'on vous présentera tout à l'heure. Vous avez rappelé, monsieur le commissaire, qu'il fallait qu'il y ait un excédent en fin d'année et il était important d'avoir une année de marge. Ça fait partie des règles de l'association. Et donc, si on veut à la fois profiter du recrutement de cette juriste et puis engager aussi un déplacement des locaux, ça suppose d'augmenter notre budget et de toucher aux cotisations. La décision qui a été prise, c'est de toucher à la part fixe. Et puis, c'était interrogé de savoir si on le faisait en plusieurs fois. Et le bureau et le conseil d'administration ont décidé de plutôt le passer en une fois, évidemment, que nous engageons derrière à continuer le travail à votre service et surtout améliorer, même si ce n'est pas une juriste qui changera toutes les demandes en réglementation qui vous sont posées. Mais nous nous engageons évidemment à rendre encore un service meilleur au sein de notre association. Voilà quelques explications. Je laisse monsieur Ontaret de nous donner quelques éléments supplémentaires et puis nous passerons au vote de cette proposition d'augmenter les cotisations pour 2024-2025. Vous avez quelques éléments pour votre commune pour savoir ce que ça va entraîner.
Oui, alors comme l'a rappelé Monsieur le Président, au vu de l'évolution de la situation de l'association, l'augmentation semble nécessaire pour 2025 afin d'éviter de générer un déficit sur l'exercice à venir. Les cotisations 2024 et les propositions d'augmentation des cotisations de 2025 apparaissent à l'écran et sont détaillées en fonction du nombre d'habitants de la commune ou de l'intercommunalité. Par exemple, pour une commune de 150 habitants, l'augmentation proposée est de 100 euros pour porter le total de la cotisation à 282 euros pour l'année 2025. Pour une commune de 800 habitants, l'augmentation proposée est de 180 euros et le total de la cotisation annuelle s'élèverait ainsi à 491 euros. Je vais vous faire un rapide état du montant des cotisations proposées pour 2024-2025. Pour les communes de moins de 200 habitants, la cotisation proposée est donc de 282 euros. Pour les communes de 200 à 399 habitants, 350 euros. Pour les communes de 400 à 600 habitants, 400 euros. Pour les communes de 600 à 700 habitants, 303 euros plus 0,235 euros par habitant. Pour les communes de 700 à 1000 habitants, 303 euros plus 0,235 euros par habitant. Pour les communes de 1000 à 2000 habitants, 343 euros plus 0,235 euros par habitant. Pour les communes de 2 à 3000 habitants, 443 euros plus 0,235 euros par habitant. Pour les communes de 3 à 10 000 habitants, 443 euros plus 0,214 euros par habitant. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, enfin, 563 euros plus 0,214 euros par habitant. Pour les EPCI de moins de 6 000 habitants, 343 euros plus 0,0645 euros par habitant. Pour les EPCI de 6 à 10 000 habitants, 443 euros plus 0,0645 euros par habitant. Et enfin, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, 563 euros plus 0,0645 euros par habitant. Les seules cotisations qui évoluent, le seul calcul qui évolue concerne les communes de 600 à 700 habitants. Puisque on était en 2024 sur une cotisation de base de 266 euros et la part de l'AMF représentait 0,166 euros par habitant. Et la proposition de 2025 part sur une base de 123 euros plus 0,235 euros par habitant. C'est le changement de mode de calcul Et les cotisations représenteraient du coup de 265 à 285 euros en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Voilà, il me reste donc à vous la faire approuver. C'est jamais facile de faire approuver des augmentations de cotisations dans ces moments un peu compliqués. Je veux aussi remercier la subvention du département, qui est de 40 000 euros, en espérant qu'elle ne bougera pas, parce que nous en avons bien aussi besoin. Voilà, je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, un grand merci quand même pour cette unanimité. C'est jamais facile. Et on tâchera d'en être digne et d'être à la hauteur. Merci beaucoup.
Alors, on va passer à la présentation du budget prévisionnel qui va s'afficher normalement. Voilà. Alors, ce budget prend en compte l'évolution des cotisations qui viennent d'être votées. Bon, je crois que je commence à être un peu long, donc je vais ici m'attarder seulement sur les grandes lignes de ce budget. Donc, on commence sur la diapo que vous avez à l'écran par les dépenses prévisionnelles qui s'élèvent pour les frais généraux à 44 850 euros. Ici, l'augmentation notable concerne les dépenses liées aux locations immobilières et au futur déménagement de l'association. Les charges de personnel sont estimées à 159 550 euros. L'augmentation est liée donc à l'ouverture du nouveau poste, comme en a parlé Monsieur le Président. Les dépenses liées au congrès pour 30 000 euros. Les cotisations AMF pour un montant de 30 500 euros. Et enfin, les dépenses liées à l'opération Agenda pour 7 350 euros. Le total des dépenses s'élèverait alors à 272 250 euros. Viennent ensuite sur la diapo suivante les recettes du budget prévisionnel, avec un montant de cotisation perçu de 144 300 euros, une participation de l'AMF pour 34 950 euros, en hausse grâce à l'aide notamment à la structuration pour le nouveau poste et les rétrocessions sur les actions de formation. La subvention du département que l'on a maintenue dans le budget prévisionnel pour 40 000 euros. Les recettes des congrès pour un montant de 40 000 euros. Les réunions d'information pour 500 euros. Il n'y a plus de recettes directes liées à la perte de l'agrément sur les formations. Et enfin, des recettes de communication pour 11 500 euros et des recettes diverses pour 1 000 euros. Voilà, pour un total de 272 250 euros et un budget équilibré. J'espère avoir été clair et vous avoir gardé attentif jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute et vous souhaite un très bon congrès.
Merci pour cet exercice qui était le premier. J'appelle maintenant Serge Bladinière pour le rapport d'activité.
Madame la préfète, messieurs les parlementaires, monsieur le président du département, mes chers collègues maires et élus, mesdames et messieurs, il me revient à nouveau en qualité de secrétaire général de vous présenter le rapport d'activité de l'Association des maires et élus du Lot depuis notre dernière assemblée générale réunie le 20 octobre 2023. Vous le savez, les promesses que l'on fait ne sont valables que si elles sont tenues dans la durée. Je m'étais engagé devant vous à faire court, je vais donc m'attacher au respect de cet engagement en résumant les missions de notre association en trois axes et quatre mots. Informer, former, rassembler et défendre. L'esprit de synthèse dont je vais faire preuve m'amènera malgré tout, vous le comprendrez, à développer un peu mon propos. Tout d'abord, vous informer. L'AMF 46 assure cette mission d'information de ses adhérents au travers des différents mails dont vous êtes destinataire régulièrement. Trop régulièrement, diront certains, mais il est difficile de trouver un moyen plus rapide de vous alerter sur l'actualité et de vous transmettre les éléments utiles à l'exercice de votre mandat. L'AMF 46 vous informe également avec les différentes réunions que nous organisons et avec les points info proposés en visioconférence. Je vous rappelle que ces réunions d'information et ces points info sont gratuits, ouverts à tous les conseillers municipaux des communes adhérentes. Vous pouvez même, si la jauge le permet, être accompagné d'un agent. Sur l'année écoulée, la MF 46 a organisé le 14 septembre 2023 une réunion sur le statut de l'élu, le 28 septembre une visioconférence sur le thème de l'annonce du décès brutal aux familles des victimes, en partenariat avec la Ligue contre les violences routières, que je souhaite ici vivement remercier. Il faut savoir que ce module que nous avons initié dans le Lot a ensuite été transposé dans plusieurs associations départementales avec l'intervention du président de la Ligue contre les violences routières du Lot, Pierre Lagache, et le docteur Martaguet, médecin urgentiste. Le 14 mars 2024, un point info en visioconférence sur les réponses sur les régimes de retraite des élus, en partenariat avec la FOMPEL. Le 29 mars, une réunion sur l'actualité des finances publiques et les marges de manœuvre financières. Le 25 avril, un point info d'alerte en visioconférence sur les démarches parfois frauduleuses dont sont victimes les communes et les intercommunalités. Je tiens également à remercier le colonel Laudet et le commissaire Surlapierre pour la mise en place, au bénéfice des élus du Lot, d'actions de gestion des agressions et incivilités, avec l'intervention du RAID pour les communes situées en zone police et celle du GIGN pour celles situées en zone gendarmerie. Ces modules ont été déployés suite à un partenariat engagé au niveau national entre le ministère de l'Intérieur et l'AMF. Vous informer, c'est également accompagner au travers des réponses qui sont apportées à vos questions juridiques, de plus en plus nombreuses. Cet appui juridique n'est certes pas parfait, puisque nous étions de notre côté confrontés aux limites de structuration de notre association. Je vous rappelle que l'AMF 46 n'emploie plus de juristes depuis maintenant 8 ans. En effet, c'est de manière simultanée qu'a été mis fin à la mise à disposition à titre gracieux d'un agent du département, Jacques Endurant à l'époque, le prédécesseur de Karine Alicot. Or, la situation financière de notre association nous interdisait à ce moment-là d'employer 2 personnes, il a donc fallu faire des choix. Nous avons un temps imaginé que les intercommunalités répondraient à la demande d'appui juridique de leurs communes membres. Mais les intercommunalités ont déjà fort à faire avec le traitement de leurs propres sujets juridiques. Dans l'intervalle, nous avons donc fait avec les moyens du bord et ce sont plus de 300 questions qui ont transité par notre association pour cette dernière année. Certaines ont été traitées par notre directrice, d'autres par les conseillers techniques et juridiques de l'AMF, d'autres par notre réseau d'experts constitué au fil des ans, d'autres enfin par un cabinet d'avocats auquel nous faisons appel. Le nombre de demandes étant croissant et n'étant plus absorbable, à l'état actuel de notre structuration, les instances de l'AMF 46 ont conduit une réflexion qui a abouti à la décision de remettre en place ce service tant attendu par les communes. Nous sommes en effet pleinement conscients de la difficulté qui est la vôtre et de votre isolement parfois aussi lorsque vous êtes confrontés à un problème juridique. Nous allons donc franchir cette année une nouvelle étape que le président développera plus tard, avec l'arrivée d'une juriste qui rejoint l'équipe actuelle de l'AMF 46, composée de la directrice Karine Alicot et de la secrétaire assistante Nathalie Pélaez-Fabre. Mais vous le savez, mes chers collègues, dans une collectivité comme dans une association, un service a un coût. Il nous a donc semblé que la mutualisation du coût de ce poste était la meilleure option pour nos adhérents. Et donc vous l'avez confirmé par votre vote concernant l'augmentation de cotisation. J'appelle néanmoins votre attention sur le fait qu'une juriste, même de très bonne volonté, et je sais qu'elle le sera, ne pourra répondre sans limite aux questions de nos 311 communes et 9 intercommunalités adhérentes. Une autre des missions de notre association est de vous former. Avec les actions que nous mettons en place dans le Lot, auparavant sous notre propre agrément, depuis avril 2024 sous l'agrément de l'AMF, il nous semble toujours aussi important de vous permettre d'accéder localement à une offre de qualité afin que vous puissiez acquérir les compétences utiles à l'exercice de votre mandat, voire, sait-on jamais, vous préparer pour le suivant. Ainsi, en 2023-2024, 16 sessions de formation vous ont été proposées. Le 22 septembre 2023, fonctionnement du conseil municipal et du conseil communautaire. Le 4 et 5 décembre 2023, 2 sessions sur le thème « Préparer un discours impactant », ce qui n'est pas la même chose. le 7 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, deux sessions sur le thème « Élaborer le budget de la commune ». Le 13 et 14 décembre 2023, ainsi que le 2 juillet 2024, trois sessions consacrées au plan communal de sauvegarde et à la prévention des risques et gestion de crise. Le 19 janvier 2024, analyse financière des collectivités. Le 4 mars, les chemins ruraux. Le 5 mars, les pouvoirs de police. Le 25 mars, législation funéraire et gestion des cimetières. Le 30 avril, communication numérique et réseaux sociaux. Le 10 juin, les clés pour établir le règlement du cimetière. Le 11 juin, l'élu et les associations. Et enfin, le 4 juillet, prise de parole en public. Je vous rappelle que vous pouvez, pour vous former, mobiliser les crédits formation de la collectivité, dépenses obligatoires inscrites au budget ou votre droit individuel à la formation. Même si l'on ressent un essoufflement en ce dernier tiers du mandat, vous êtes encore un certain nombre à vous positionner sur les sessions proposées. Je ne peux que vous inviter à continuer à le faire en usant de ce droit individuel à la formation, un droit que vous financez, je vous le rappelle, au travers d'un prélèvement chaque mois sur vos indemnités de fonction. Cette possibilité d'utiliser le droit individuel à la formation élue concerne tous les élus, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnités. Cette inscription, certes, l'inscription ressemble parfois au parcours du combattant. Nous devons bien souvent vous accompagner et vous guider par téléphone. L'inscription sur la plateforme Mon Compte Élu nécessite la création préalable d'une identité numérique, la Poste. À ce sujet, je souhaite à nouveau remercier Céline Garrigue, déléguée territoriale, pour l'accompagnement des élus mis en place par la Poste dans le Lot. Sachez que cet accompagnement a valeur d'exemple au niveau national et que de nombreuses associations départementales de maires nous l'envient. Vous avez en effet la possibilité d'entrer directement en contact sur leur mobile avec des conseillers numériques La Poste ou de prendre rendez-vous dans 5 bureaux de poste du département pour l'établissement de votre identité numérique. La plaquette des formations proposées dans le Lot est à votre disposition aujourd'hui sur le stand de la MF 46. La troisième mission de notre association est de vous rassembler et de vous défendre. Chaque fois que vous le sollicitez pour faire état d'une difficulté, l'association des maires et des élus du Lot s'applique à se faire le relais de vos préoccupations et des sujets qui vous mobilisent. Pour n'en citer que quelques-uns, la nécessité de disposer de moyens de fonctionnement et d'investissement suffisants, l'application du ZAN, l'assurabilité des communes, les difficultés pour les élus ou anciens élus retraités agricoles, ou encore les conditions d'exercice du mandat. C'est la force de notre association qui rassemble les 9 intercommunalités et 311 des 313 communes du Lot. C'est aussi la force du réseau constitué avec notre maison mère, l'AMF, qui fédère la quasi-totalité des communes et intercommunalités de France pour parler d'une seule voix. L'AMF 46 vous rassemble et rend son action visible au travers de notre site internet régulièrement alimenté, notamment du trombinoscope des maires et présidents d'intercommunalité. C'est également notre page Facebook, notre compte Instagram et l'opération Agenda que nous conduisons en interne en partenariat avec acteurs institutionnels et économiques. C'est également les actions de communication ponctuelles comme celle qui vous sera présentée par notre président. L'AMF vous rassemble et désigne également vos représentants au sein des différentes instances consultatives mises en place par l'État et le département. Notre association est ainsi amenée à désigner des élus pour siéger et participer aux travaux de près de 60 instances. Nous sommes également là pour vous défendre et être à vos côtés en cas d'agression. Je rappelle que l'AMF 46, lorsqu'elle est informée, et c'est désormais systématiquement le cas, accompagne les victimes, les élus, victimes de leur démarche. Depuis trois ans, donc, notre association se constitue systématiquement partie civile aux côtés des élus agressés, verbalement ou physiquement, lorsque des poursuites sont engagées à l'encontre de l'auteur. Je ne peux, à ce sujet, que vous inciter à ne pas laisser le malaise s'installer et à agir en cas d'agression. Vous rassemblez ensuite, au travers des réunions de nos instances, notre conseil d'administration a ainsi été appelé à se réunir trois fois cette année. Vous rassemblez, c'est également l'organisation par l'AMF 46 des réunions de l'AMF Occitanie, pilotée par Jean-Marc Vessous de Fort, notre président. Vous rassembler, c'est aussi le temps qui a lieu aujourd'hui au Parc des Expositions du Grand Cahors et ce congrès-salon pour lequel notre petite équipe, jusqu'alors de 2 personnes, est pleinement mobilisée depuis plusieurs semaines. Vous rassembler, c'est enfin le 106e Congrès national des maires et présidents d'intercommunalités de France qui aura lieu cette année, du 19 au 21 novembre 2024, sur le thème « Les communes, heureusement ». Près de 60 élus lotois effectueront le déplacement à Paris. Comme chaque année, l'AMF 46 est chargée de centraliser les réservations, notamment pour tout le temps organisé en marge du Congrès. Voilà, mes chers collègues, ainsi résumé l'activité 2023-2024 de notre association qui œuvre au quotidien pour vous apporter, avec les moyens dont elle dispose, le soutien dont vous avez besoin. Et je tiens vraiment, vraiment à remercier Karine Alicot, la directrice, et Nathalie, sa collaboratrice, pour tout le travail effectué, parce que tout ce que je viens de citer, elles sont que 2 jusqu'à maintenant pour le faire. Donc, comme vous allez sûrement applaudir, je pense beaucoup à elles quand vous les applaudissez. Vraiment, c'est pour elles. Voilà. Elles le méritent. Merci.
Merci, Serge. Madame la préfète, messieurs les parlementaires, monsieur le président du département, mesdames et messieurs les élus régionaux, mesdames et messieurs les élus départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs les agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État, mesdames, messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour ce congrès-salon avec une présence qui a, je le crois, quasiment jamais été aussi nombreuse. Votre mobilisation confirme l'intérêt de réunir dans le même temps et dans le même espace le congrès annuel de notre association et le salon des collectivités et des intercommunalités. Plus moderne, plus interactif, ce format reconduit pour la 3e fois est la traduction d'une volonté forte, faire de ce temps majeur de la vie de notre association un moment utile, un moment éclairant, et un moment consacré à votre quotidien, à vos préoccupations et à votre engagement. Mais je peux difficilement, vous en conviendrez, aborder le rapport moral de notre association sans évoquer la gravité de l'instant que nous traversons, un instant d'incertitude pour notre pays, un instant pour le moins préoccupant, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives précipitées n'a pas permis de dégager, on dira, une majorité stable. La clarification annoncée n'a fait qu'ajouter une ombre au tableau. Après les difficultés rencontrées pour nommer un Premier ministre, nous n'avons désormais aucune certitude quant à la durée de vie de ce gouvernement qui s'expose à chaque instant à une possible motion de censure. De la Chambre introuvable au gouvernement éjectable, il n'y a désormais qu'un pas. Or, de nouvelles perturbations institutionnelles viendraient davantage encore affaiblir la voix de la France sur la scène internationale, dans un contexte où elle est pourtant particulièrement exposée. Je suis, vous le savez, à la Commission de Défense et Affaires étrangères, et je peux le constater chaque jour. Si pour l'heure, notre pays ne court pas le risque d'être directement frappé par un belligérant engagé dans l'un des conflits qui se jouent actuellement sur le globe, il est toutefois en proie aux conséquences de la guerre qui a eu lieu en Europe et dans le monde, je pense particulier au risque de choc énergétique, d'intensification des flux migratoires et de pénurie de produits de première nécessité qui pourraient, quant à eux, nous concerner plus directement. Toujours en matière de risque, les experts sont unanimes sur les effets dévastateurs du changement climatique. Le dépassement de 1,5 degré, qui est très probable, entraînera toujours plus de catastrophes naturelles, agricoles et économiques, sans qu'aucun territoire ne puisse se prévaloir d'en être épargné. Nous en faisons le constat tous les jours. Il y a quelques jours, c'était les conséquences de la dramatique de la tempête Kirk. Et puis hier, vous avez vu partout en France cette augmentation des précipitations et les dégâts qu'elles causent. Je veux d'ailleurs avoir une pensée pour ces femmes et ces hommes qui, sur notre territoire et en particulier dans notre vignoble, subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Je pense à ces viticultrices et à ces viticulteurs qui vont devoir, dans quelques semaines, arracher à contre-cœur des hectares de vignes abîmées et avec eux une partie de notre histoire. Et puis, il y a cette détérioration record de nos finances publiques. Je rappelle simplement ce chiffre. Nous parlons d'un déficit public qui dépasse les 6% du PIB en 2024. Je me souviens, il y a quelques années, où il ne fallait surtout pas dépasser les 3%. C'était nos engagements européens. Nous sommes aujourd'hui au double. C'est une dérive insensée, non maîtrisée, et qui nous oblige à réagir. Vous le saviez mieux que quiconque, vous qui avez l'habitude de voter des budgets à l'équilibre. Et si une réaction s'impose aujourd'hui, c'est parce que nous avons pleinement conscience que le meilleur moyen de perdre son indépendance, c'est de dépenser l'argent que l'on n'a pas. Dans ce contexte dégradé, il est, je crois, particulièrement malvenu de faire porter la responsabilité aux collectivités territoriales, comme certains s'y sont osés, tant elles ont maintes fois prouvé leur bonne gestion. Ces accusations sont d'autant plus malsaines que ces dernières années, c'est un fait incontestable, les collectivités n'ont cessé de subir des transferts de compétences forcés et mal compensés. Je pense à l'urbanisme, je pense au périscolaire qui allait dans le bon sens, interrogation sur le fonds de soutien au périscolaire. Je pense aussi à l'état civil, avec le nouveau passeport biométrique, à la GEMAPI, regardez les inondations, la responsabilité qui va être la nôtre demain, les coûts que vont avoir la prévention des inondations, avec des montants de travaux qui vont cesser de croître. Et puis, force est aussi de constater que les collectivités ont été contraintes de s'engager dans des domaines régaliens, parce que les dysfonctionnements étaient criants, parce que, je le sais, les citoyens viennent voir le maire en priorité lorsqu'il y a une difficulté. C'est notamment le cas en matière de santé. Nous mettons en place, avec le concours de l'État, j'entends bien, mais des centres de santé, des maisons de santé, de sécurité publique, ou même d'accueil physique et d'accompagnement administratif de nos concitoyens, notamment tous ceux qui sont confrontés à ce qu'on appelle l'électronisme. Je prends l'exemple des maisons France Services et des cars des services publics qui vont dans le bon sens et qui sont soutenus par l'État, mais faisons quand même le constat que qu'est-ce qui se passe, notamment dans le cas des services publics, c'est que nous traitons des déclarations d'impôts, des cartes grises, des prestations familiales, autant d'éléments qui, auparavant, n'étaient pas dans les missions des collectivités. Et donc, je considère qu'il est tout à fait inacceptable de demander aux collectivités qui gèrent bien d'être la variable d'ajustement d'un État qui, à ces derniers temps, mal géré, c'est un constat. Il n'est pas acceptable non plus que l'on nous demande un effort aussi colossal que celui que prévoit le projet de loi de finances pour 2025. Ce sont 5 milliards d'euros annoncés, mais en réalité, on a fait nos comptes, c'est plutôt autour de 10 milliards, si l'on compte les coupes directes et indirectes, les désengagements de l'État et les effets non compensés de l'inflation. Contribuer à l'effort, bien sûr. Mais accepter que l'on puisse à ce point nier le rôle fondamental des collectivités, cela me paraît inenvisageable. Je pense bien sûr au prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités dont les ressources de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d'euros. Ici, c'est le département surtout qui va être visé, car on va s'en sortir, a priori. Mais je pense aussi à la suppression de la dynamique de compensation via la TVA, ça va concerner tout le monde, à la contraction des transferts au titre du FCTVA, ce qui fait que demain, on aura quand même intérêt à investir, puisque pour le coup, l'État en profitera, à l'augmentation de la contribution des employeurs à la CNRACL, à la diminution de l'enveloppe du fonds vert, et puis à la fin de l'automaticité du chèque énergie. Les économies vont toucher nos communes, à qui l'on demande de bien vouloir payer la facture. Et puis ces économies vont aussi indirectement affecter nos territoires. C'est ce que je crains en particulier pour l'avenir de la ligne POLT, quand je lis les annonces du ministre des Transports qui souligne la fragilité de l'exécution du plan de 100 milliards d'euros en faveur du ferroviaire d'ici 2040. J'espère qu'on sera passé avant. Je le dis ici devant vous, nous n'accepterons pas, en tout cas, que nos départements soient une nouvelle fois méprisés et que le principe d'égalité entre le territoire soit définitivement sacrifié. Vous l'aurez compris, cette situation périlleuse du point de vue institutionnel, international, climatique et financier menace clairement notre République. Elle la menace parce qu'elle entame notre capacité à rendre le service, à faire collectif et par conséquent à appréhender l'avenir sereinement. Face à ces dangers, nous avons une responsabilité immense, celle qui est de ne rien lâcher. Parce que depuis bien longtemps, j'ai l'intime conviction que c'est notre démocratie locale qui est la plus à même de sauver notre République. Car oui, la République a besoin de ses 35 000 communes et de ses 600 000 élus locaux. La République, elle a besoin de vous parce que vous agissez avec efficacité et réactivité face aux sollicitations croissantes de nos concitoyens, face à l'accélération du numérique, aux transformations démocratiques et aux changements climatiques. La République, elle a besoin de vous parce que vous apportez de l'humain et de la proximité là où s'exprime un besoin de sens et de solidarité. Votre engagement, c'est la traduction concrète de cette pensée de la philosophe Simone Veil, qui estimait que l'enracinement est le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. La République, elle a besoin de vous parce que notre équipe, cette belle équipe des élus locaux, elle rend la France fière, fière de compter sur autant de bénévoles, à l'heure où on n'a jamais eu autant besoin d'engagement. Et puisque l'on parle de bénévolat, je mets les ennemis de la démocratie locale au défi de calculer le coût de votre action si elle devait un jour être déployée par des agents de la fonction publique. Oui, la République a besoin de vous parce que la confiance, c'est à vous que nos concitoyens l'accordent en priorité. Toutes les enquêtes le montrent, 64%, ça a même un peu progressé, des Françaises et des Français indiquent avoir confiance en leur maire. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, je ne les citerai pas pour les gouvernements, notamment le président de la République. Efficacité, humanité, bénévolat et confiance, c'est sur ce socle intangible que repose votre responsabilité, c'est sur ce socle crédible que repose votre légitimité. Face aux défis qui se présentent à nous, votre rôle va être essentiel. Pour les relever, vous avez besoin de moyens et notamment de moyens d'investissement. Quand on sait que 70% de l'investissement public est porté par les collectivités, je le rappelle, le dynamisme économique et la croissance de ce pays, c'est les collectivités qui en sont les acteurs. Il faut donc sanctuariser les aides pour vous permettre de réaliser vos projets jusqu'au bout. Des projets que l'État encourage à déployer, c'est un certain nombre de dispositifs qui sont d'ailleurs très intéressants. Je pense au programme « Petite ville de demain » ou « Village d'avenir ». Mais je vois bien aussi le risque. Ces projets génèrent de l'ingénierie, des études, de l'enthousiasme et des engagements aussi devant la population. Et si on n'arrive pas à les boucler, ça sera derrière beaucoup de frustration, vous en avez conscience, et une perte de crédibilité des élus devant leur population. Vous avez besoin de moyens, peut-être autant que de simplification administrative. Vos préoccupations face à la complexification de votre quotidien, je les ai vécues, je les ai entendues, et vous le savez, c'est un combat qui me tient particulièrement à cœur. Alors oui, je crois que le discours a changé, quand même. J'entends les annonces faites au sujet de l'assouplissement ou le transfert de l'eau et l'assainissement en 2026, même si je crains que nous le prenions un peu tardivement, puisque beaucoup d'efforts avaient été faits déjà par le département, les intercommunalités. Je pense et j'espère qu'il servira quand même à quelque chose. J'entends aussi les promesses de suppression de l'objectif de zéro artificialisation nette. J'entends toutes ces déclarations d'intention, mais désormais nous avons besoin d'actes, nous avons besoin de concrets. Des moyens d'agir, de la simplicité, mais aussi du respect, voilà ce que veulent les élus de terrain pour aider notre pays à se relever des multiples crises qu'il traverse, du respect, de la reconnaissance et de la bienveillance dans la parole publique. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur des interlocuteurs proches de vous. Et je veux saluer très sincèrement le dévouement et l'efficacité des services de l'État dans ce département. Je voulais vous remercier, Madame la Préfète, ainsi que vos équipes, d'essayer de trouver souvent un chemin dans des situations qui sont un peu inextricables. J'en conviens. Merci de trancher souvent avec le sens du pragmatisme, entre des réglementations qui, il faut le reconnaître, sont souvent contradictoires. Je pense à cette volonté de respecter notre patrimoine, mais ça peut bloquer le développement des énergies renouvelables. Je pense aux exigences en matière de préservation de la biodiversité qui peuvent s'avérer contraire à la construction de nouveaux équipements publics indispensables, à la rénovation du bâti ancien, qui est souvent ralenti par la question des fouilles archéologiques, ou souvent vous êtes interpellé par des extensions d'entreprises qui s'opposent fréquemment au PPRI. Merci aussi d'essayer de faire au mieux quand les enveloppes en financement, je pense notamment à la DTR, la DICIL, pourraient vous contraindre à faire moins. L'enveloppe, elle est escalée, ce n'est pas facile. On essaie de trouver des solutions, je le sais, de reporter, de faire des tranches. Nous avons, vous le savez, la nécessité de pouvoir aller au bout des projets. J'espère que dans l'ensemble, nous y arriverons. Je vous le dis, les élus ont besoin de vous parce que nous avons besoin de cet état de terrain qui écoute, qui accompagne et qui soutient plutôt que d'un état lointain qui décourage, qui empêche et qui contraint. Chers amis, je sais que vous pouvez aussi compter sur des collaboratrices et des collaborateurs dévoués de grande valeur. Je parle bien entendu des secrétaires de mairie dont je veux saluer ici l'engagement sans faille. Enfin, vous pouvez naturellement compter sur notre association, sur les membres du bureau et du conseil d'administration pour continuer à vous accompagner et à vous défendre sans relâche. L'association des maires et élus du Lot se mobilise au quotidien pour porter ces messages que je viens d'évoquer. Elle se fait le relais fidèle de vos préoccupations auprès de notre instance nationale. Comme notre secrétaire général Serge Bladinière a eu l'occasion de l'évoquer, nous sommes notamment actifs dans l'information, la formation des élus et l'accompagnement juridique. Pour mettre en œuvre ces actions et répondre à vos besoins, nous avons la chance de nous appuyer sur une équipe compétente, engagée et formidable, dirigée par Karine Alico, que je tiens à remercier, ainsi que Nathalie Pélaès Fabre, notre assistante secrétaire. Juste vous signaler que cette année sera marquée par plusieurs nouveautés. Je vais revenir sur deux d'entre elles. On en a parlé tout à l'heure. Nous avons voulu donner suite à une demande appuyée de votre part sur la question de soutien juridique. Depuis plusieurs années, nous essayons de faire au mieux, mais la structuration de notre association ne nous permettait plus de répondre à l'intégralité de vos demandes. Nous avons donc engagé une réflexion pour créer un poste de juriste et j'ai donc le plaisir de vous annoncer la prise de fonction d'Audrey Bonnet, qui est là, qui peut se lever, comme ça elle sera repérée d'entrée. Je tiens à lui souhaiter la bienvenue et à remercier le département du Lot qui a facilité sa mise à disposition, comme il le fait pour Karine Alico. Et puis je vous informe également que le 1er janvier 2024, notre directrice est passée par souci de transparence à temps partiel afin qu'elle puisse consacrer une partie de son temps de travail à l'accompagnement des élus dans le cadre de mon mandat de sénateur du Lot. Autre nouveauté, j'évoquais en début de matinée la campagne de communication de notre instance nationale, les communes heureusement. Nous avons souhaité que notre association conduise en parallèle une déclinaison de cette campagne pour susciter chez les Lotoises et les Lotois l'envie de participer à la vie de la cité et de s'engager pour la commune. J'aurai l'occasion de présenter, je crois, tout à l'heure un peu ce dispositif. Je souhaitais simplement vous dire que face à la crise des vocations, je préfère largement mener une campagne qui valorise l'engagement local plutôt que de voter au Sénat un texte qui impose aux communes une diminution du nombre de conseillers municipaux. Nous étions au Sénat avec Raphaël la semaine dernière et ça nous a été proposé. Ça a finalement été rejeté. Moi, je n'y étais pas favorable. En tout cas, je ne voulais pas me résoudre à ce qu'aujourd'hui, on ait moins de conseillers municipaux parce que c'est aussi derrière moins de bénévoles. Et puis, vous le savez, je plaide pour redonner une place de premier plan à l'échelle communale, qui est incontestablement le point de jonction avec le réel, comme l'écrit Jean Dumonteil. Et puis, car je crois profondément à cette phrase du président François Mitterrand, qui disait que la France a eu besoin de la centralisation pour se faire et qu'elle aura besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. Alors oui, mes chers amis, tant que nous tiendrons, tant que nous resterons debout, tant que nous continuerons à offrir le meilleur service du quotidien au moindre coût, la République tiendra sa promesse. Oui, la société ira un peu mieux à mesure que nous encouragerons davantage de femmes et d'hommes à s'engager à nos côtés, à s'engager pour l'intérêt général, à s'engager pour le collectif, à s'engager pour une cause qui nous dépasse, celle de servir nos habitants et nos territoires, sans relâche, passionnément et fidèlement. Je vous remercie.